Seigneur, merci de tout cœur pour ces témoignages, Seigneur, pour la manière que tu travailles dans nos vies de manière très différente d'un côté et similaire de l'autre. Seigneur, nous ne pouvons que te bénir pour tous tes bienfaits. Merci pour 2008. Nous te remercions pour cette Église, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous réunissons. Que nous nous connaissons les uns les autres, nous sommes frères et sœurs en Christ, selon ce que dit la parole de Dieu, Seigneur, et merci de nous avoir réunis. Et merci encore ce que tu veux faire pour 2009. Seigneur, c'est ton année, c'est ton Église. Nos vies sont tes vies. Seigneur, fais ce que tu veux de nous. Et c'est ce que nous te demandons maintenant. Et aide-nous à vraiment examiner ce texte rapidement, mais qu'il soit vraiment un sujet de grande joie pour nous tous ce matin. Et je t'en remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir au psaume 100. Il a déjà été lu tout à l'heure, donc je ne vais pas le relire. Mais c'est vrai qu'en la raison que je voulais prêcher ce psaume est toute simple, c'est que moi, en regardant en arrière, personnellement, je peux franchement dire, et mon épouse partage ce sentiment avec moi, que 2008 a été une des meilleures années de notre vie, dans notre ministère. Et ça, on ne peut que remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans cette Église et nous a aidé à participer dans l'œuvre de cette Église. Et on est vraiment réjouis pour l'année 2009 aussi. Donc, je voulais simplement exprimer cette joie par ce témoignage, mais aussi par ce psaume. Parce qu'en fait, ce psaume, tout ce qu'il dit, finalement, c'est que nous devrions être un peuple reconnaissant. Un peuple qui aime louer le Seigneur. Ça devrait faire partie de notre quotidien. Alors, écoutez, ce psaume, il est assez simple, il est très court, il n'a que 5 versets. Et le psaume est très facile à trouver, parce que dans le premier verset, il est dit « psaume de louange ». Ça, c'est le thème. Ce psaume est en fait une doxologie qui veut dire « c'est une prière à la gloire de Dieu ». Et c'est intéressant que de savoir que le psaume 100, sur les 150 psaumes qu'il y a, est le seul qui a ce titre spécifiquement. C'est le seul psaume qui prescrit son utilisation pour le but de louer Dieu. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Intéressant que c'est aussi le point culminant d'un groupe de psaumes, parce que les psaumes, on peut les découper en groupes, en groupements. Et celui-ci est le point final du groupe des psaumes qui le précède, des psaumes 93 à 100. Et si vous lisez les psaumes 93 à 100, vous verrez que tous ces psaumes louent Dieu parce qu'il règne. Il règne, c'est lui qui règne sur la terre, c'est lui qui règne dans nos vies. Regardez le verset 1 du psaume 99 par exemple, « L'Éternel règne ». Et donc, puisque Dieu est Dieu et Dieu règne, le point culminant de ces psaumes, c'est le psaume 100 où nous voulons pousser vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, les habitants de la terre. Pourquoi ? Parce qu'il règne sur la terre et il règne sur les habitants de la terre et il règne sur nos vies. Alors, c'est aussi un psaume qui a été particulièrement aimé dans l'histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chant que nous avons chanté tout à l'heure, « Vous qui sur la terre habitez », bien qu'il est assez vieux dans son style, c'est normal. Bien qu'il ait encore beaucoup chanté, moi j'étais sur YouTube, regardez, j'ai cliqué sur doxologie, alors il y a tous les styles. Là. Vous pouvez prendre en gospel, en moderne, en vieux, avec orgue, tout ce que vous voulez, chant grégorien presque, tout est possible. Il a été utilisé de toutes sortes de manières. Mais c'est Jean Calvin, en fait, à Genève, qui, lui, pensait important de reprendre les psaumes et de les chanter. Alors, il y avait des chants qu'on faisait dans l'Église, mais ce n'était pas nécessairement des psaumes. Et lui, donc, a demandé à Théodore de Bèze de réécrire les psaumes en vers pour pouvoir les chanter. Et il a nommé Louis Bourgeois, né en 1510 à Paris, qui a suivi Calvin à Genève. Et c'est lui qui est devenu le chantre à Saint-Pierre. Et c'est lui qui a composé la musique pour ce chant et bien d'autres. Et donc, ce chant qu'on a chanté ce matin figure dans le sautier de Genève. Je trouve que c'est quand même une petite note historique intéressante. Alors, je me suis dit aussi, mais pourquoi est-il important de l'étudier brièvement ce matin ? Ben, je pense que le contexte d'aujourd'hui, de notre société, y prête vraiment. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où les amis ont peur. Les gens ont peur aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Les gens ont très peur. La crise économique a frappé. Et on nous dit, du moins c'est ce que moi j'entends, que pendant 1 voire 2 ans, les choses vont aller pire avant qu'elles iront mieux. Ben ça fait quand même peur. On se pose des questions. On voit que des gens autour de nous perdent leur emploi, ils perdent leur maison, ils perdent leurs économies. Des banques ferment, des sociétés ferment, le chômage s'accroît. Et c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit, mais quel va être l'effet sur nous personnellement? Et ça fait peur. J'ai lu un article sur la peur dans La Vie protestante en septembre 2008. Un guillemettant dit ceci. De la panique à la terreur, comprendre la peur. Affolement, alarme, alerte, angoisse, appréhension, aversion, crainte, effroi, épouvante, frayeur, frousse, inquiétude, panique, phobie, répulsion, trouille, terreur. Les mots pour exprimer la peur sont presque aussi nombreux que ceux de l'amour. Mais si la peur est l'un des sentiments le plus universel partagé, c'est aussi celui dont on aime le moins parler. Omniprésent, protéiforme, elle habite nos vies comme une deuxième peau, même si on la tait. Il suffit pourtant de gratter la surface des choses et d'être pour la voir affleurer à la surface des consciences. Bref, il n'a pas vraiment de solution à la peur, c'est intéressant. Il décrit ce que c'est, mais il n'a pas vraiment de solution. Et ce matin, moi j'aimerais vous apporter la solution à la peur. Enfin, c'est pas moi qui vous l'apporte. Je vous la communique parce qu'elle est dans la parole de Dieu. Elle est dans la Bible. La solution, mes amis, elle se résume en un mot. La solution à la peur ou de la peur se résume en un mot. L'Éternel. Ça, c'est peut-être deux mots. C'est des deux mots, hein. L'Éternel et l'apostrophe. Allez, deux mots. L'Éternel ou éternel. La réponse, c'est Dieu. Nous devons apprendre à mettre nos confiances sur Dieu. S'il lui règne sur la terre, s'il lui règne sur les événements de la vie, eh bien où allons-nous mettre notre confiance? Mais il faut la mettre sur celui qui règne sur les événements de la vie. Et c'est vrai que les gens d'habitude autour de nous, leur attitude dépend des circonstances dans leur vie, n'est-ce pas? Quand les choses vont bien, ils sont tout contents, tout heureux, c'est la fête. Et quand tout va mal, c'est la catastrophe. Alors, le psaume 100 nous aide à mettre notre confiance dans le Seigneur, à le louer et à voir la peur diminuer, voire disparaître dans nos vies. Alors, on sait que l'Éternel, c'est la clé ici, parce que ce psaume de 5 versets, il y a 12 références à l'Éternel, que ce soit en nom propre ou en pronom. Donc, c'est la clé. C'est la clé. Le Seigneur. Le psaume 121:1 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Alors le psaume 100, 5 versets, est très facile à schématiser. Il consiste de 7 verbes actifs. D'accord? 7 verbes actifs, en fait, 7 impératifs, 7 commandements. Donc voici les commandements du Seigneur à notre égard pour louer Dieu. C'est intéressant de savoir que la louange nous est prescrite. C'est un choix, c'est une décision, c'est un ordre, c'est une obéissance. Louer le Seigneur est un acte d'obéissance. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais résumer ces 7 points en 7 mots. Je prends simplement le verbe actif, d'accord? Alors il y en a 7. 7 impératifs vers une louange constante. Bon, je ne crois pas que j'ai donné le titre de mon message, le béaba de la louange, le béaba de l'adoration. D'accord ? Numéro 1, poussez. Verset 1, psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est le cri fort, comme le son d'une trompette, mais des cris. C'est un cri qui sort de la profondeur de notre être intérieur. En fait, je ne sais pas si vous pouvez imaginer un nouveau roi qui devient roi, et toute la foule l'acclame comme roi. Eh bien, ce cri-là, de la foule qui l'acclame comme nouveau roi, c'est le cri ici que nous devrions pousser vers l'Éternel. Quel genre de cri? Ben, regardez ce qu'il dit. Des cris de joie. Des cris de joie. Vers qui doivent-ils être dirigés? Vers l'Éternel. Ce matin, on a eu un moment de partage et vous avez tous remercié le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Voilà ce que nous devrions être, un peuple reconnaissant constamment vers le Seigneur et l'exprimer avec des cris de joie vers l'Éternel. Et qui est appelé à pousser des cris de joie, selon le verset 1? Alors ça, c'est intéressant. Vous tous, virgule qui? Les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Cela résume tout le travail missionnaire dans le monde entier. Dieu veut quoi? Dieu veut que tous les habitants de la terre poussent des cris de joie vers l'Éternel, vers le Créateur de la terre. Pourquoi envoyons-nous des missionnaires dans le monde entier? Pour que le monde entier, tous les habitants de la terre, apprennent qui est l'Éternel et apprennent à adorer et à pousser des cris de joie vers l'Éternel. Ce matin, je me lève tôt, je fais mon café. En attendant le café, je vais regarder les nouvelles à la télé. Donc j'ai environ 5 minutes. Ce matin, dimanche matin, il n'y a pas grand-chose, surtout très tôt. Mais il y avait un programme sur l'Inde. Et pendant ces 5 minutes, il y avait un temple en Inde dédié aux singes. Et alors, il y en a beaucoup, hein, les singes partout. Et alors, bien sûr, apparemment, les singes sont sacrés. Parce qu'ils sont des dieux, je n'ai pas très bien compris s'ils sont des dieux représentatifs de Dieu. Mais ensuite, ils ont fait le point sur un homme qui, tous les jours de sa vie, vient en vélo. Il a 2 grands sacs qu'il remplit de nourriture. Il vient en vélo au temple et il nourrit les singes, pensant qu'en nourrissant les singes, il recevra du mérite de Dieu parce qu'en fait, il est en train d'adorer le Dieu singe. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais t'as voir, le gars, on ne peut que le féliciter pour son zèle. Mais il se trompe. Il se trompe. C'est un faux Dieu qu'il est en train de louer. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Car dans Romains 1, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Regardez, écoutez, verset 23. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme a remplacé le vrai Dieu de Psaume 100 avec des reptiles, avec des animaux, avec des singes. Voilà jusqu'à où est descendu l'homme. Et il adore l'animal. Non, mes amis. Non, ça, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est exprimée ici. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous les habitants de la terre. Nous avons un monstre travail à faire, mes amis. Et nous devons commencer ici, à Genève. Il y a quantité de personnes dans cette ville qui ne connaissent pas l'Éternel. À nous de leur apporter la bonne nouvelle de l'Éternel et de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Deux. Servez l'Éternel avec joie. Verset 2. C'est intéressant, ça c'est très intéressant, je trouve, car la base du mot servir ici est le mot utilisé pour décrire un esclave ou un serviteur. En fait, c'est l'image d'un serviteur d'un roi. Imaginez que vous étiez serviteur d'un roi, littéralement, son serviteur à la maison. Comment est-ce que vous le serviriez? Avec zèle, avec ponctualité, avec assiduité, avec ferveur, avec joie, avec sourire, avec bon cœur. Vous verriez cela comme un privilège. Mais lui, il dit, servez l'Éternel, votre roi, avec joie. C'est intéressant que dans le hébreu, le concept de servir et d'obéissance est équivalent au concept d'adoration. Lorsqu'on sert le Seigneur, on adore le Seigneur. Et ces choses vont toujours en parallèle. On le retrouve par exemple dans Deutéronome 10 et le verset 12, où il dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu le craignes l'Éternel, adoration ton Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer et de le servir de tout ton cœur. » D'accord? Donc on voit que adorer l'Éternel et le servir, pour lui c'est la même chose. Lorsqu'on sert le Seigneur, on l'adore. Et je trouve que c'est une perspective intéressante sur le service. Écoutez bien, lorsque vous servez quelqu'un pour le Seigneur, lui voit ça comme un acte d'adoration. Prenons ce matin. Est-ce que vous avez servi quelqu'un ce matin? Je prends des exemples. Est-ce que c'était vous à l'accueil ce matin? Est-ce que c'est vous qui êtes venu pour aider à installer la sono? Ou peut-être jouer un instrument ou chanter? Ou peut-être vous vous êtes préparé cette semaine pour servir les enfants et leur enseigner quelque chose, ou peut-être pour apporter le message, ou peut-être pour la présidence, ou pour préparer la Sainte Cène et les éléments, ou servir la Sainte Cène. Ou peut-être le PowerPoint, ou l'informatique, ou peut-être pour l'offrande, ou compter l'argent. Tous ces actes de service sont des actes d'adoration et de louange pour le Seigneur. Et ça, je trouve vraiment, vraiment encourageant. En Deutéronome 28, verset 47, il dit, alors bon, on devrait reculer, verset 46, elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Donc il les gronde pour ne pas avoir remercié le Seigneur avec joie et bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un jour de fer sur ton cou jusqu'à que tu t'aies détruit. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est que ceux qui ne servent pas avec joie, qui ne servent pas de tout leur cœur et de bon cœur, peuvent être jugés par le Seigneur. Donc il veut que nous le servions et que nous l'adorions avec bon cœur. C'est pareil avec la libéralité. C'est un exemple dans 2 Corinthiens 8, 2. Lorsque nous donnons au Seigneur, comment devrions-nous donner? 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc il veut que nous soyons serviteurs avec joie. D'accord? De bon cœur. Et ça, je crois qu'on se prépare. Moi, je sais que, par exemple, de venir au culte, peut-être il y a certains dimanches, je vous dis, c'est super de pouvoir faire la grâce matinée, pas venir. Est-ce que je dois y aller? Ben, je comprends, hein, on est tous humains. On devrait arriver à un point dans la vie où on veut y aller. C'est notre premier rendez-vous de la semaine. Et je veux y aller avec joie, avec abondance, pour pouvoir servir le Seigneur et servir son peuple. Bref, il faut que j'avance. Trois. Venez avec allégresse dans sa présence. Venez. Venez. Lorsque nous venons dans sa présence, il veut que nous le fassions comment? Avec allégresse. Voilà, ça on peut l'appliquer au culte le dimanche matin. Lorsqu'on vient, faisons-le avec allégresse. Et ça, on doit l'apprendre à nos enfants aussi. De venir avec allégresse et avec joie. Quatre. Sachez. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Une certitude. C'est une certitude profonde, une connaissance profonde qui accepte sans réserve la vérité confessée. L'adorateur joyeux, pourquoi est-il joyeux? Parce qu'il sait quoi? Il sait que l'Éternel est Dieu. Si tu as un doute par rapport à l'Éternel, si tu as un doute par rapport à Dieu, si tu as un doute par rapport à Jésus-Christ, ça va être très difficile de venir, comment? Avec joie. Mais tu viendras peut-être avec méfiance, avec question. Alors, ce n'est pas un mal d'être en recherche. Mais quand on est en recherche et on n'est pas convaincu, on entend des choses différemment et on est troublé. Ça heurte. Mais quand on connaît le Seigneur et lorsqu'on sait que l'Éternel est Dieu, et on sait que c'est lui qui nous a fait, c'est lui et nous lui appartenons, que nous sommes son peuple et que nous sommes le troupeau de son pâturage, que nous avons cette sécurité de savoir ces choses, waouh! Là, on peut venir plein de louanges, plein d'adorations, même quand les choses semblent aller mal, parce qu'on dit, mais attends, ok, je suis dans une période difficile dans ma vie, peut-être, financier ou chômage ou émotionnel ou, je ne sais pas, relation, tout ce que vous voulez, mais je viens, quoi? Je sais que l'Éternel est Dieu, d'accord? Donc il contrôle ma vie. Je sais que c'est lui qui m'a fait. Je sais que je lui appartiens en Christ. Je sais que je suis son peuple et je suis le troupeau de son pâturage. Pourquoi je m'inquiéterais? Franchement, pourquoi je m'inquiéterais? C'est pour cela, je pense, que le psaume 23 est probablement le psaume le plus populaire et le plus lu. Pourquoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et oui, ça arrive aux croyants de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, écoutez ce qu'il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. C'est ça la clé. C'est pas qu'il enlève l'épreuve, mais c'est qu'il est avec moi dans l'épreuve. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qui a réconforté les disciples lorsqu'ils étaient dans l'orage, ils allaient couler ? C'est que Jésus était avec eux. Malgré la panique, ils ont dit, c'est lui, Dieu. Dieu est dans le bateau avec moi. C'est quand même pas rien. Puis ensuite, tac, l'orage est terminé. Grand beau soleil, immédiatement. 5. Poussez, servez, venez, sachez, 5. Entrez, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Alors bien sûr, le psalmiste ici a l'adorateur juif dans sa tête qui vient littéralement au temple pour adorer l'Éternel. Donc imaginons, venant au Ramada, qu'on vient vraiment au temple, d'accord ? Il faut bien quand même l'imaginer, ça, parce que c'est pas évident, d'accord ? Mais on vient en endroit, ensemble, régulièrement, pour louer, adorer le Seigneur. Donc c'est ce mouvement d'aller. Et là, on rentre dans les portes. Alors bien sûr, c'est le temple, hein, mais imaginons qu'on est au Ramada, là. Enfin, on est au Ramada. On entre dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Moi, je crois que ça parle de se préparer avant de venir adorer le Seigneur. On se prépare. Bien sûr, le temple n'existe plus, et on l'avait déjà dit dernièrement, enfin, il y a quelques temps en arrière, on ne vient pas à l'église, nous sommes l'église, d'accord ? Donc le lieu même n'est pas sacré. C'est ici qu'on se réunit, mais nous sommes l'église, nous sommes le corps de Christ. Mais lorsque nous venons pour adorer le Seigneur ensemble, comment le faisons-nous ? Bien, c'est ce qu'il dit ici, entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est pour ça que nous chantons. Le cœur joyeux, le cœur reconnaissant, Dieu nous a créés pour chanter. On veut chanter des louanges, l'adoration, des cantiques. Ça devrait vraiment faire partie de notre vie, chanter. Ce matin, on se préparait à venir au culte. Ma femme ne sait pas que je vais le dire, mais on se préparait, elle chantait. Elle chantait, elle était heureuse. Elle chantait un cantique. Moi, j'aime entendre mon épouse chanter. Je me dis, elle est heureuse ce matin. Elle est heureuse, non ? Mais c'est super. Ça veut dire qu'elle s'est préparée. Elle a eu son culte personnel, elle s'est préparée à venir. Elle chantait. J'espère que c'est votre cas aussi. Que vous chantez même avant de venir chanter ici. On se prépare. On chante à la maison et on vient chanter ensemble ici. 6. Célébrer. Célébrez-le. Célébrer, ça veut dire quoi ? Quand on célèbre une fête, on a fait la célébration de la première année le 16 novembre, c'est la fête. Non ? Quand on célèbre quelque chose, on fête quelque chose. Et voilà ce qu'il nous dit de faire. Célébrez-le. Célébrez-le. C'est tout simple. Fêtez, honorez-le. Et 7e, bénissez son nom, verset 4. Bénissez son nom. Littéralement, s'agenouiller pour adorer et magnifier. Pourquoi ? Devons-nous, ou pourquoi voulons-nous le bénir, verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération, et c'est vrai. Il n'y a qu'à regarder les générations passées et ce que nous sommes aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu des tragédies dans l'histoire, mais l'Église grandit, le Seigneur est bon, il est toujours là. Regardez toutes les bénédictions que nous avons entendues ce matin, nous continuons la lignée de ceux qui bénissent le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours été bon. Il a été bon lorsque le psalmiste a écrit le psaume 100, et il est encore bon aujourd'hui. Donc nous bénissons son nom avec le psalmiste. Tout simple, mais un bon rappel, n'est-ce pas ? Nous avons loué et béni le Seigneur pour l'année 2008. Commençons cette année en le louant et en le bénissant. J'aimerais vous lancer un défi. Où est-ce que nous apprenons qui est le Seigneur ? Dans la parole de Dieu, c'est tout simple. Ça, je pense que vous le savez déjà, bien sûr. J'espère que cette église est une église de la parole de Dieu. écoutez, nous avons la parole de Dieu. C'est vraiment ce que nous avons. Tout ce que nous savons sur Dieu vient de la parole de Dieu. Peut-être vous n'avez jamais décidé de lire la Bible en un an. Moi, je le fais depuis des années. Bon, je ne réussis pas chaque fois. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Mais chaque année, ça fait depuis quoi, 30 ans maintenant environ, je me fais une petite feuille et tous les jours, je coche et je lis. Donc, ce matin, je me suis levé, Genèse 10 à 11. Puis, j'ajoute aussi, moi, le Nouveau Testament pour aller un peu plus vite. D'accord ? Peut-être c'est quelque chose que vous aimeriez faire. J'ai des feuilles ici à vous donner. C'est les mêmes que j'ai. Et c'est pour être un mécanisme pour vous donner l'élan de lire la Bible, 2 chapitres, 3 chapitres par jour. Alors, ne vous culpabilisez pas. Si vous ratez un jour, vous ratez. Continuez, d'accord ? Moi, je dirais, allez au jour où vous êtes, vous continuez à lire, et si vous pouvez plus tard retourner, vous retournez. Mais ne vous culpabilisez pas. Vous sautez deux jours, vous sautez deux jours. Vous continuez au jour tel que nous avons aujourd'hui. Et si à la fin de l'année, vous avez fait que 3/4 de la Bible, pas grave. Au moins, vous avez fait 3/4 de la Bible. C'est simplement une manière de vous aider à vraiment connaître ce livre, parce que nous devons être un peuple de la parole de Dieu. Amen. Donc si vous voulez, je vais mettre les feuilles ici, à la fin du culte, vous pouvez venir en prendre une. J'en ai 50, si vous en voulez encore, vous pouvez les copier, ou bien me demander. On va prier. Seigneur, merci de tout cœur pour le psaume 100, pour ce que nous avons appris ce matin. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple de louanges et d'adoration et un peuple reconnaissant. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Elle est à toi, elle t'appartient, tu la connais parfaitement déjà. Aide-nous à rentrer dans tes projets et pour ta gloire. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ.